franceinter.fr.
Et si la mort n'existait plus? C'est la question que se pose sérieusement le courant transhumaniste. Né il y a une trentaine d'années aux États-Unis, le transhumanisme souhaite améliorer l'espèce humaine, augmenter sa perception, sa réflexion, ses performances, jusqu'aux cellules souches qui permettraient des autogreffes, un homme qui pourrait se renouveler sans cesse, qui ne serait plus malade et vivrait plus longtemps, voire tout le temps. Ce n'était qu'une fable il y a quelques années, ça devient désormais probable à mesure que la science avance et avec des moyens considérables. L'entreprise la plus riche du monde, Google, s'intéresse de près à la question, sans trop pour l'instant susciter l'intérêt du public. Pourtant, les questions éthiques que le transhumanisme soulève ne manquent pas, à commencer par celle-ci, comment vivre une vie qui n'aurait pas de fin? Peut-on améliorer l'homme jusqu'à le rendre éternel? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Trois invités pour parler du transhumanisme aujourd'hui. Béatrice Jousset, couturier, docteur en pharmacie, spécialiste de bioéthique, auteur de ce livre sorti cette année aux éditions Erol, Le transhumanisme. Jean-Michel Beignet, philosophe, et David Angevin, journaliste, romancier, spécialiste des nouvelles technologies et co-auteur notamment des romans Google Démocratie et Adrian Humain 2.0. Mais avant d'aller plus loin, et comme tous les lundis, c'est avec le journal Libération que nous ouvrons l'émission, et c'est avec vous, Anastasia Vécrin, bonjour.
Bonjour.
Vous parlez aussi en quelque sorte de surhomme, puisque vous évoquez les écrivains depuis une semaine dans Libération, Libération qui propose de voir l'Amérique d'Obama à travers les yeux d'écrivains.
Oui, tout à fait. Après 8 ans à la Maison Blanche, c'est un peu l'heure du bilan pour Barack Obama et on a voulu sortir de l'analyse politique classique. Donc depuis la semaine dernière et jusqu'à demain, Libération a ouvert ses pages à 7 grands romanciers américains. Donc il y a Richard Ford, Jeffrey Eugenides ou Cyrus Vett. Et ils évoquent le premier président noir des États-Unis. Alors c'est très loin de la politique, c'est incarné, il y a du sentiment, c'est intime. Et donc c'est 7 textes.
Il y a les prises de position
inédits.
Aussi.
Bien sûr, heureusement. Donc c'est 7 textes inédits que je vous invite à lire ou à relire sur Libération. Et c'est vraiment une série formidable qui a été coordonnée par Catherine Calvé à Libé. Et c'est aussi 7 portraits originaux de l'Amérique.
Alors vous l'avez cité, Jeffrey Eugenides, notamment l'auteur de Middlesex. Qu'est-ce qu'il raconte de ses années Obama?
Alors lui, c'est typiquement le cas de la petite histoire qui raconte la grande. L'auteur de Virgin Suicides, il nous a fait un témoignage mais fantastique. Alors il raconte bien sûr qu'est-ce que ça a de révolutionnaire d'avoir un président noir à la Maison Blanche, mais surtout il fait un parallèle entre ce que traverse le président Obama et ce que lui traverse dans sa vie conjugale. Alors pendant le premier mandat, Obama, il est en pleine crise financière, il met en place un plan de relance économique. Lui, il se lance dans un projet immobilier avec sa femme pour relancer son couple. Et il décide de retaper une magnifique maison dans le New Jersey. Et l'économie américaine, elle repart, mais pas le couple de Jeffrey Eugenides.
Bon, c'est peut-être pas la bonne solution, le coup de la maison, alors. Voilà. Deuxième mandat, donc du coup, j'imagine qu'ils se séparent.
Voilà, au deuxième mandat, ils se séparent. La femme fait changer quand même les serrures de la maison. Et Obama, pour lui, ça a été une sorte de contrepoids de tout ce qui s'est emballé dans sa vie.
Donc là, c'est vraiment le point de vue très intime. Richard Ford, en revanche, dont le texte a déjà été publié, que vous pouvez retrouver sur le site de Libération.fr. Richard Ford, prix Pulitzer quand même. Lui a une version moins intime de cette présidence Obama.
Oui, Richard Ford, lui, il a décidé de revenir sur la campagne de dénigrement contre Barack Obama, qui n'a pas faibli pendant les 8 années de... au pouvoir. Barack Obama, au début, il n'était pas américain, il n'était pas chrétien, il soutenait le terrorisme, et là, dernièrement, il aurait même provoqué le récent massacre d'Orlando. Donc, en fait, vraiment, les pires calomnies ont été dites contre lui. Et pour Richard Ford, ça montre que les conservateurs, qui sont pourtant moribonds aux États-Unis, sont prêts à tout pour survivre politiquement. Et il s'inquiète de la menace des années Trump...
Y compris le mensonge. Ouais,
il regrette déjà Obama. Il regrette Obama déjà. Et il se dit qu'est-ce que ça pourrait être des années Trump, quelle horreur. Et puis surtout, c'est quoi cette redite obligatoire de...
Oui, il n'est pas non plus très enthousiaste.
Des années Clinton.
Pas non plus très enthousiaste avec Hillary Clinton. Et donc aujourd'hui, lundi 15 août, c'est la romancière Cyrus Vett, donc la femme de Paul Auster, sur la question cette fois de la blancheur aux États-Unis.
Oui, en fait, elle c'est vraiment un texte qui est très très fort, qui est donc aujourd'hui. Elle raconte avec une incroyable justesse, c'est le racisme aux États-Unis. En 1964, Cyrus Vett, elle a 9 ans. On est en plein mouvement pour les droits civiques. Et elle raconte avoir été marquée à vie par les images racistes qui ont été diffusées à la télévision à l'époque. Elle explique aussi que le concept de race, il n'a pas de signification en biologie, mais la différence de race provoque une telle souffrance que ça a quand même une certaine réalité. Et la qualité de blanc aux États-Unis, c'est l'absolu à l'aune duquel on mesure les autres. Ça veut dire que l'homme blanc, c'est la référence. Donc,
c'est l'analyse de Siri.
Oui, bien sûr. Et elle explique que la moindre goutte de sang noir fait passer l'individu de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle la color line. Et la contribution de Barack Obama, selon elle, et c'est vraiment très fort, c'est que dans un pays d'une diversité croissante, Barack Obama a justement réussi à affaiblir cette conception de la blancheur comme référence absolue.
Et vous vouliez lire une ligne de Siri Hustvedt. Bah écoutez, allez-y, faites-vous plaisir.
Donc c'est la fin du texte de Siri Hustvedt aujourd'hui dans Libération. Le président Obama va me manquer, sa grâce me manquera, sa voix me manquera, sa façon d'incarner l'image de l'Amérique me manquera. Pour ceux d'entre nous qui vivent aux États-Unis, il n'y a qu'une seule chose à faire, voter pour la femme blanche. L'élire présidente et célébrer la chute d'une autre barrière en dansant dans la rue.
Ça, c'est pour aujourd'hui, lundi 15 août. Et demain, dans Libé, la suite de ce feuilleton consacré aux Américains qui regardent les années Obama.
Demain, ce sera un jeune écrivain, Smith Anderson, qui sort d'ailleurs très prochainement Yaak Valley, Montana, chez Bellefond. Je vous en dis pas trop, mais en fait, il raconte la prolifération des théories du complot pendant les années Obama et comment la voix paranoïaque des extrémistes est devenue dominante dans le pays.
Eh ben merci Anastasia Vécrin. Donc l'Amérique vue par les écrivains. Demain 16 août, ce sera donc Smith Anderson aujourd'hui, lundi 15 août, Siri Hustvedt et tous les autres à retrouver sur libération.fr. Le transhumanisme dans le débat de midi, l'homme peut-il devenir éternel? C'est la question qu'on se pose avec vous aussi, franceinter.fr, sur Twitter, hashtag le débat de midi. Un débat qu'on commence avec Broken Bells, Holding On For Life, et vous êtes bien sur France Inter. About the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Ooh, ain't nobody calling, ain't nobody home. What a lovely day to be Broken Bells, Holding On For Life. Toute la programmation musicale est à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter, le débat de midi.
Et trois invités autour de la table pour débattre de cette question du transhumanisme. Jean-Michel Beignet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, docteur en sciences politiques, spécialiste des technologies d'information et de communication. David Angevin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, journaliste et vous avez notamment publié ce roman, Adrian Humain 2.0, c'est aux éditions Naïve. Et enfin, Béatrice Jousset-Couturier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacie, spécialiste de bioéthique et vous avez publié tout récemment, ce livre, Le transhumanisme, faut-il avoir peur de l'avenir? C'est aux éditions Erol. D'ailleurs, dans ce livre, Béatrice Jousset-Couturier, il y a au tout début du livre, l'introduction, signée la préface, signée Luc Ferry. Luc Ferry qui écrit « Grâce à la convergence d'une série de révolutions scientifiques, encore quasiment ignorées du grand public, la mort sera vaincue, sinon d'ici la fin du siècle, du moins à coup sûr, au siècle prochain ». Est-ce que Luc Ferry n'exagère pas un peu dans votre préface ?
Si, Luc Ferry exagère certainement parce que la mort ne va pas être vaincue demain. Mais
c'est
la mort
en pharmacie qui parle.
Oui, la mort de la mort, ce n'est pas pour demain non plus, mais c'est très accrocheur, vous l'avouerez. Et cela est une belle introduction quand même à la pensée transhumaniste.
Est-ce que ça veut dire qu'on survente, disons, cette idée, qu'on lui donne un caractère romanesque qui n'a pas lieu d'être ?
Si, sa question a tout à fait lieu d'être parce qu'il y a des centaines de, d'études qui sont faites dans ce sens, des centaines de scientifiques et pas des moindres qui travaillent. Et une grosse société a pris les choses tout à fait en main. Dans ce sens, et vous l'avez nommé en introduction.
Vous voulez pas la nommer ? C'est Google.
Hein ? Si, c'est Google.
Google, en effet, s'intéresse de près à cette question du transhumanisme. David Angevin, est-ce qu'il y a des technologies qui permettraient à l'homme de vivre plus longtemps, voire de devenir immortel ? Alors, pas au siècle suivant, mais dans les siècles à venir ?
Bien sûr, parce que quand on parle de transhumanisme, on parle de quoi ? On parle de quatre grandes technologies, quatre qui sont convergentes. On parle des NBIC. Hein. Les NBIC, c'est N nanotechnologie, c'est-à-dire pouvoir intervenir à l'échelle du milliardième de mètre. Ça sera bientôt des nanorobots qui vont se balader dans votre corps et aller réparer et faire ce qu'ils ont à faire. C'est les biotechnologies, le B. Biotechnologie, c'est donc la médecine, c'est-à-dire c'est la médecine régénérative, prédictive. C'est les technologies du vivant, d'une manière générale, c'est la médecine de demain. Avec la génétique et la capacité à réécrire le génome qu'on a maintenant, on sait le lire depuis 2003, on sait maintenant le réécrire. Donc c'est quand même un pas absolument considérable et vertigineux. On a le I de NBIC, c'est l'informatique, l'intelligence artificielle, qui permet de traiter des quantités de données absolument considérables. Et puis il y a le C de... le I c'était l'informatique, et le C c'est donc les sciences cognitives. On peut aussi y ajouter la robotique, parce qu'il y a une part d'hybridation de l'homme et de la machine qui est en train de se faire, et Google est présent dans tous ces domaines.
Mais concrètement, quels outils permettraient aujourd'hui à l'homme de vivre plus longtemps ?
Par exemple, sur le thème du cancer, il y a un consensus mondial chez les grands cancérologues américains pour dire que ce sera une maladie chronique gérée d'ici 10 ans. Grâce à la génétique et à l'ingénierie génétique, à l'immunothérapie, c'est-à-dire une manière de faire des cellules reprogrammées, une sorte d'OGM du vivant humain, et qui permettront de guérir le cancer. En tout cas, on pourra vivre avec le cancer comme on vit aujourd'hui avec le sida et ne plus en mourir. Donc il y a des progrès absolument vertigineux. C'était inimaginable il y a quelques années.
Donc ça veut dire, et je me tourne vers vous, Jean-Michel Beignet, philosophe que vous êtes, que en fait tout le monde semble d'accord sur le fait que la question finalement n'est plus de savoir si la technologie va ou non modifier radicalement l'être humain. Elle va la modifier. Est-ce que maintenant la question c'est de savoir dans quelle mesure cela reste raisonnable ?
J'aimerais bien répondre quand même à votre question, à la question que vous avez posée. Quels sont les moyens concrets qu'on met en avant aujourd'hui pour nous garantir cette immortalité? Parce que ces moyens, ils sont déjà bien identifiés. Il y a ce qu'on appelle les cellules souches totipotentes induites. La possibilité donc de faire régresser des cellules somatiques à l'état de cellules génératives qui sont potentiellement immortelles. Donc l'idée est très proche qu'on pourrait refabriquer des organes à la demande, votre foie ne fonctionne plus, etc. Autogreffe. Bon, ça, c'est déjà effectivement une perspective assez bouleversante. Et puis le deuxième moyen qui est souvent mis en avant, qu'on appelle le mind uploading, c'est le téléchargement du contenu de votre cerveau sur un matériau inaltérable, plus de silicium ou cyberespace, etc., qui vous garantirait quelque chose comme la pérennisation de votre conscience. Donc c'est ces deux éléments-là qui font beaucoup jaser et qui font beaucoup fantasmer, y compris Luc Ferry.
Alors, il y a le fantasme, certes, c'est pas pour demain, hein, on est bien d'accord, mais il y a aussi la prospective, et est-ce que, encore une fois, je me permets de vous reposer ma question, est-ce que la question aujourd'hui, c'est pas de se demander jusqu'où il est possible, jusqu'où même il est raisonnable d'aller?
Chacune des technologies que nous mettons en œuvre, et celles qui composent les NBIC notamment, comportent leur part de désirabilité et de raisonnable, bien entendu. Hein. Prenons un exemple. On a évoqué, David Angevin a évoqué quelque chose qui bouleverse beaucoup le monde de la biologie aujourd'hui, c'est le fameux CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, c'est ce ciseau moléculaire qui permettrait de faire du copier-coller avec les génomes et qui permettrait donc d'importer des gènes d'une espèce différente, par exemple, et l'injecter dans nos gènes humains et donc de nous modifier profondément. Il est évident que cette technologie, elle est fabuleuse puisqu'elle va permettre sans doute de relancer les thérapies géniques dont on rêve depuis longtemps. Et donc, on va pouvoir aller très loin. On va pouvoir supprimer sans doute certaines maladies, le paludisme, enfin, etc.
Alors, quand on est dans le cadre du soin, voilà. Ça va. Quand on est dans le cadre de l'amélioration de l'homme, est-ce qu'on est dans le même type de raisonnement?
Alors, après, le problème se pose de savoir jusqu'où, effectivement, on peut aller avec cela, parce que cette même technologie du copier-coller du génome permet d'envisager de réaliser ce qu'on appelle un eugénisme positif, et l'idée de faire des générations d'êtres modifiés qui seront le résultat évidemment des décisions que nous prenons nous pour les générations à venir, et à ce moment-là on est dans quelque chose qui peut être soumis en tout cas à discussion éthique.
C'est ce que vous racontez dans votre livre finalement, hein, David Angevin. Il y a cet homme Adrian, donc, qui est un jeune homme modifié, qui est très beau, très fort, très intelligent, qui va plus vite que tout le monde.
On a nettoyé son fardeau génétique et on l'a amélioré.
Donc il méprise les humains classiques tels que vous et moi, enfin, j'espère, en tout cas pour moi, c'est sûr. Pour vous, j'imagine aussi que vous êtes encore un humain classique. Mais cet homme, donc, qui est modifié, son but, c'est l'anéantissement de l'humain classique au profit de l'humain 2.0.
Oui, alors là, on est dans un roman.
On est dans le roman, on est d'accord.
On s'est amusé à imaginer ce que ça pouvait donner, des humains augmentés avec 160 de QI et puis un physique parfait et puis évidemment débarrassés de leur fardeau génétique. Mais dans la réalité, il se passe des choses étonnantes. Les Chinois sont en train de séquencer des génies, des gens à fort QI, pour pouvoir ensuite produire des ingénieurs à la chaîne. C'est leur but. Et il y a vraiment, en ce moment, un délire transhumaniste dans ces pays-là, que nous, on n'a pas ça en France, évidemment, parce qu'on ne débat même pas de ces sujets en France. C'est-à-dire qu'on est encore à l'âge de pierre de ces questions. Mais bien sûr, il y a des risques considérables.
Pourquoi, d'après vous, on n'en parle pas de ces sujets?
Parce qu'on n'est pas un pays, on est un pays un petit peu technophobe. On est un pays littéraire. On a, je pense, d'une certaine manière, perdu la bataille de l'Internet dans les années 2000. C'est-à-dire que toute la valeur est partie aux États-Unis. On voit bien que, voilà, il y a une forme de statu quo. On est dans une espèce de principe de précaution surtout. On a peur de tout et on ne va pas dans cette technologie-là. Les Américains ne se posent pas ces questions. La zone Asie-Pacifique ne se pose pas ces questions et ils foncent. Et donc, bien sûr, tout ça se fabrique loin de chez nous. Donc, ça crée, c'est profondément anxiogène. Je crois que personne ne comprend ce qui est en train de se passer, vraiment. Très peu de gens en parlent. On a quelques spécialistes autour de la table, mais il y a un vrai problème, disons, de manque de débat sur ces sujets-là. C'est-à-dire que, voilà, il y a une ignorance encyclopédique de ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, et il faut lutter contre ça absolument.
Béatrice Jousset-Couturier, vous en parlez, donc vous avez décidé de prendre la plume, mais en posant cette question, faut-il avoir peur de l'avenir? C'est le sous-titre de votre livre consacré au transhumanisme.
Oui, tout à fait. Alors avant de répondre à votre question, je voulais simplement dire une petite réponse à propos de Luc Ferry, qui effectivement...
Allons-y, mais il faudra que le débat avance quand même.
Oui,
à un moment
va
donné,
avancer tout de suite. Alors ça, je rectifie juste un petit peu sa pensée. Effectivement, lui a envie de vivre beaucoup, beaucoup plus vieux, bon, ne pas mourir, je crois qu'on n'en est pas encore là. Et pour ce qui est de l'ADN, je tiens à rappeler un petit peu qu'effectivement, si chacun de nous, et regardez l'exemple des jumeaux, ils ont le même ADN, mais mis dans des milieux et des cultures différentes, ce ne sont absolument pas les mêmes personnes. Donc l'ADN nous définit, effectivement, on peut en faire des clones, mais ensuite, notre histoire et ce qu'on appelle l'épigénétique nous façonne. Mmh. Bon, voilà.
Et là-dessus, le transhumanisme n'a pas de prise pour l'instant.
Il a une prise sur la première partie, mais vous inquiétez pas, il va très très vite s'occuper de l'environnement. Ça fait partie certainement de leur programme.
Alors, en même temps, on évoque ce roman, donc cette histoire d'Adrian qui est un homme modifié, un homme 2.0 et qui décide finalement d'exterminer les humains classiques. Mais il y a des inquiétudes qui ne sont pas romanesques. Et je pense à cette tribune qui avait été signée notamment par Stephen Hawking, donc le physicien que tout le monde connaît, Elon Musk, Bill Gates, Noam Chomsky, hein, une tribune qui avait frappé les esprits et qui disait, en gros, le développement de l'intelligence artificielle pourrait signifier la fin de la race humaine.
Oui, ils ont signé une pétition, du reste, en juillet 2015, si ma mémoire est bonne, pour essayer de limiter l'influence de l'intelligence artificielle et en particulier celle des drones tueurs. Donc vous voyez que même les grands spécialistes du transhumanisme se posent aussi des questions éthiques. Donc, alors se posent-ils ces questions pour encore mieux continuer? Je n'ai pas la réponse, mais ils se la posent.
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez qu'il y a une forme de...
Je pense que de temps en
perfidie
temps...
Perfidie dans la façon dont on se pose cette question-là?
Je ne sais pas, mais vous savez, c'est comme ceux qui créent les virus et leur antidote.
L'image a le mérite d'être claire. Si jamais la mort est vaincue, évidemment, on a bien compris que ce ne serait pas pour tout de suite, voire même que ça reste impossible, mais ça reste quand même... ça suscite des questions d'ordre très pratique et des questions aussi sociétales, mais d'abord très pratiquement. S'il y a plus de morts, si nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps, comment on peut organiser la vie sur cette planète? Est-ce que cette question a déjà été anticipée?
Oui, cette question a été anticipée. Il y a même des études qui ont été faites et qui montrent que dans les sociétés qui vivent beaucoup plus longtemps, la natalité baisse.
Mécaniquement, on pourrait
mécaniquement,
dire, parce que mécaniquement.
Mécaniquement.
Bon, puis par
Jean-Michel Beignet,
par ailleurs, s'il faut parler vraiment en termes de scénario, il faut bien se dire que si la mort était dissipée, il y a bien d'autres choses qui seraient également dissipées. La reproduction sexuée, par exemple. Le sexe et la mort ont affaire ensemble dans l'évolution biologique. Elles sont apparues vraisemblablement de manière contemporaine. Et les biotechnologies cherchent à en finir avec la reproduction sexuée pour lui substituer vraisemblablement quelque chose comme le clonage, un clonage reproductif. Donc, la régulation des naissances sera pour le coup largement programmée, décidée, concertée, et du coup le problème de la surnatalité ne se poserait plus dans ce scénario. De la même manière que la surpopulation, la plupart des transhumanistes qui réfléchissent vraiment en visionnaire encourage aujourd'hui à réactiver la conquête de l'espace. L'idée de coloniser des planètes est une idée qui tient à cœur à la plupart des transhumanistes. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de surpopulation sur la planète Terre dans ce contexte-là, puisque nous essaimerons dans la galaxie et peut-être même dans d'autres galaxies.
Enfin, ça voudrait dire, pour ça, rester je pars
tout,
sur le conditionnel.
Tout est dit évidemment au conditionnel, et avec une nuance même d'ironie.
La précision était néanmoins importante. Ce qu'on montre aussi, ce qu'on peut voir dans votre livre, David Angevin, qui encore une fois est un roman, mais un
très
roman d'anticipation, il est pas mal documenté, c'est que ne plus mourir, ou en tout cas vivre très longtemps, coûte cher, et qu'il y aurait, on parle déjà d'une santé à deux vitesses aujourd'hui, mais là il y aurait ceux qui peuvent se permettre d'être augmentés, et ceux qui ne peuvent pas se le permettre.
Oui, cela dit, toutes les technologies coûtent cher au début. Regardez le téléphone portable, c'était réservé à une élite au cadre supérieur, et puis très très vite, tout le monde a eu un téléphone portable. C'est la même chose avec toutes les technologies. Je pense que si on a demain, et on aura demain, bien sûr, la possibilité d'avoir des enfants à la carte, débarrassés de maladies génétiques graves, c'est plutôt une bonne chose, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Je pense que très vite, ces technologies vont devenir abordables. Moi je pense qu'il faut aussi parler de transhumanisme et de ce que ça implique en parlant des choses positives. Il y a des choses absolument extraordinaires qui se passent grâce à ces technologies. Je pense aux implants cochléaires pour les sourds, je pense au cœur CarMatch, je pense à... Il y a déjà plein de choses concrètes, même si on est encore, il faut le dire quand même, on parle d'immortalité, mais on en est encore à l'âge de pierre de ces technologies. La vraie médecine prédictive, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans. Et je pense qu'on est très,
c'est
très,
très rapide. C'est très rapide.
C'est très rapide. Et en même temps, on parle de ça comme si on était déjà à un plateau technologique très haut. Non, on est à l'âge de pierre de la technologie. Parce que toutes ces technos sont mues par ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire une capacité de calcul toujours plus grande, capacité à créer des algorithmes toujours plus performants. Mais encore une fois, tout ça croît de manière exponentielle. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, et vraiment l'âge de pierre du transhumanisme.
Vous voulez développer une université des nano-bio-informato-sciences cognitivo, des NBIC,
c'est pas moi,
en France. Enfin, vous êtes en tout cas le groupe qui pilote cette future
Université. La région Nouvelle-Aquitaine, qui l'ex-Aquitaine s'appelle maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Et, alors il y a une université des NBIC en Californie qui s'appelle la Singularity University, qui est financée par Google, la NASA, et quelques sociétés privées, mais qui s'adressent à un public, à une élite très richissime. Je crois que ça coûte quelque chose comme 12 000 dollars par semaine les sessions, donc ça ne s'adresse pas au grand public. Nous, ce qu'on voudrait faire, ce qu'Alain Rousset, le président de la région, voudrait faire, qui s'intéresse beaucoup à l'innovation, c'est créer une université du futur dédiée au NBIC, en y ajoutant ce que les Américains ignorent totalement, c'est-à-dire les questions éthiques, les questions philosophiques, culturelles, politiques. Parce que, évidemment, les NBIC, c'est une révolution totale. Ce n'est pas qu'une révolution médicale, comme on a l'air de le dire depuis le début. C'est une révolution totale. Toutes les filières économiques vont être bouleversées par ces technologies.
Elles commencent à l'être déjà.
Elles le sont déjà. Mais l'ubérisation, ce n'est rien. Ce n'est qu'une vaguelette par rapport au tsunami qui va arriver dans les années qui viennent. Donc, il faut vraiment. Voilà. Si on est un responsable politique et trop peu de responsables politiques parlent de ça, il faut être capable d'anticiper un petit peu le futur. On ne peut pas se contenter, face au péril auquel on est confronté, de se contenter comme ça de s'occuper du quotidien et d'avoir comme horizon indépassable la prochaine élection. Non, il faut avoir une vision à long terme parce que ces technos sont très importantes et très puissantes.
Ce tsunami dont vous parlez, ce serait quoi ?
C'est l'ubérisation de toutes les filières économiques. C'est-à-dire que tous ces modèles économiques qu'on pensait pérennes pour l'éternité depuis un siècle sont en train de s'effondrer. Et on le voit au quotidien, mais ce n'est qu'un début. Donc il faut anticiper les prochaines filières, et puis il faut réfléchir. Je pense que les gens doivent avoir un vernis de culture de ce qui est en train de se passer. Jamais l'humanité n'a été confrontée à autant de périls en si peu de temps. Et c'est mondial, et c'est très rapide. Parce que toutes les grandes révolutions se sont produites finalement sur un rythme assez lent. Là, avec les NBIC, on est dans l'ultra-rapide, boosté par l'informatique. Donc il faut agir maintenant, et c'est très important, et je trouve que les politiques français ne sont pas à la hauteur sur ce sujet, c'est très important d'y réfléchir maintenant, et d'informer les gens, de créer des débats, c'est capital.
Eh bien, nous y sommes, le débat de midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Béatrice Jousset-Couturier, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais juste rajouter, peut-être pour donner un exemple, par exemple... Vous êtes maintenant, non peut-être pas nous, mais beaucoup de joggeurs que vous voyez avec les bracelets connectés qui comptent vos pas, qui comptent votre rythme cardiaque et ainsi de suite. Imaginez qu'un jour, enfin c'est même pas un jour, parce que je suis absolument certaine que Google sait déjà tout ça, mais les sociétés d'assurance, par exemple, commencent à s'y intéresser. Alors à ce moment-là, c'est effectivement tout un système qui est complètement chamboulé, parce que ça sera des assurances individuelles. Il n'y aura plus de hasard, il n'y a plus de risque. Et là, effectivement, c'est tout le système économique dont vous parliez qui peut être chamboulé.
Il y a un risque vraiment de paupérisation de l'Europe. C'est ça que je voudrais souligner. Il y a un risque, c'est ce que je raconte d'ailleurs dans ce livre.
Dans le livre, oui, l'Europe est
très
pauvre.
Si on ne va pas dans
cette
techno...
D'ailleurs, Chambord est à vendre, appartient à Google, puis au maire de Los Angeles.
On est vraiment... Il y a un potentiel déclin.
C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je vous rembourserai votre maladie ?
Est-ce qu'on n'est pas dans du fantasme, là ?
Non, pas du tout. Non, parce que Google investit dans tous ces domaines. Google investit dans tous ces domaines. Et nous n'investissons absolument pas ces domaines-là. Nous sommes des nains technologiques. Et demain, nous risquons d'être simplement des clients de ces algorithmes fabriqués par des grands plateformistes américains, chinois ou sud-coréens, on ne sait pas. Mais si on n'investit pas dans ces filières-là, nous risquons un déclin considérable.
D'où l'intérêt de créer cette fameuse université des NBIC en Aquitaine. La Silicon Valley à Hourtin-Plage.
À Ourthe-en-Plage, oui, non, mais c'est très important. C'est vraiment un sujet. Je suis très étonné d'ailleurs que ce ne soit pas du tout évoqué par les candidats à la présidentielle qui se sont déjà déclarés.
Attendez, le débat n'a pas
encore
eu lieu.
Ils n'en parleront pas, rassurez-vous.
Jean-Michel Beignet, philosophe.
Oui, moi, je suis un peu effrayé de considérer que il faut nécessairement considérer que ces technologies sont inévitables, qu'elles s'imposent, qu'il faut surtout prendre pied, ne pas se laisser distancer. C'est le discours que j'entends continuellement et qui me déprime fondamentalement parce que j'ai l'impression qu'effectivement on avalise le fait que nous ne sommes plus aux commandes de rien, que les méga-machines, les GAFA ont pris le pouvoir et emballent le processus. Et alors, donc, il faut se mettre dans les starting blocks parce que sans ça, on est coulé. Alors, je suis parfaitement d'accord qu'il faut donner une visibilité à tous ces débats. D'ailleurs, je m'y emploie le premier. Donc, donner une visibilité à tous ces débats, informer les gens, mais ne pas leur donner à penser que tout ça est inévitable, que demain, ils seront obligés par leur compagnie d'assurance et par la sécurité sociale de porter des bracelets électroniques, des implants intradermiques, des biocapteurs, etc., etc. Ça, moi, j'en veux pas. Je préfère mourir que ça. Donc, il faut essayer de réactiver les choses, de redonner un peu de dignité aux humains, de faire en sorte qu'ils ne se considèrent pas comme ligotés, pieds et poings par les ingénieurs. Il y a tout ça à faire. Donc, je considère d'abord que, bon, que, par définition, le philosophe, c'est celui qui essaie d'opposer un devoir-être à ce qui est, opposer des valeurs aux faits. Et quand on a affaire avec les technoprophètes d'aujourd'hui, on vous balance des faits, des chiffres, et on vous dit c'est comme ça, ça ne peut être comme ça. La loi de Moore veut que, mais non, mais faut arrêter quand même, faut être un petit peu sérieux, un petit peu raisonnable, et puis dire halte là. Moi, je regarde surtout, j'ai les yeux surtout braqués sur les geeks, des paillasses, des cantines et autres qui sont en train de mobiliser de l'opinion sur l'idée que la technologie, ça peut servir à créer de la proximité, que la technologie, c'est pas inéluctablement quelque chose qui doit nous débarrasser de l'humain, parce que c'est de cela qu'on nous menace pas d'ailleurs, on nous promet d'être bientôt débarrassés de tous les attributs de l'humain qui sont censés être pesants, vulnérables, etc.
Le transhumanisme en question dans le débat de midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans quelques instants, nous serons aussi au téléphone avec Didier Kernel, vice-président de Technoprog pour la démocratisation de toutes les techniques qui peuvent allonger la vie. Ce sera juste après Glass Animals et ce titre, Life Itself. Les Anglais de Glass Animals et ce titre Life Itself, et c'est sur France Inter.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et trois invités aujourd'hui pour évoquer le transhumanisme repoussé toujours plus loin les limites de l'homme grâce à la technologie jusqu'à finalement tenir la mort à distance. Béatrice Jousset-Couturier, donc vous êtes docteur en pharmacie et auteur de ce livre « Le transhumanisme, faut-il avoir peur de l'avenir ?» C'est aux éditions Erol. Jean-Michel Beignet, vous êtes philosophe, docteur en sciences politiques. Et David Angevin, vous êtes romancier et journaliste. Et puis nous sommes aussi au téléphone avec Didier Kermel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'association Technoprog, co-président aussi de l'association ELS, qui publie en fait une lettre appelée « La mort de la mort ». Pourquoi ce... Donc, pro hein, transhumanisme, on va voir lequel, hein, mais pourquoi ce besoin de communiquer, justement, sur le transhumanisme ?
Ah ben c'est très important d'avoir des débats sur les questions de longévité, les questions de progrès technologique et donc tout ce qui est autour du transhumanisme. Nous utilisons aussi le terme techno-progressisme. Et pour continuer sur ce qui est le thème principal de ce débat, et je trouve que c'est très bien, la question d'une vie en bonne santé beaucoup plus longue, voire sans limitation de durée, un monde possible, j'utiliserai le terme amortalité et pas immortalité, c'est important de rendre envisageable ceci, notamment en Europe et particulièrement en France. Et ce pourquoi l'association française transhumaniste Technoprog milite, c'est donc pour permettre ce dialogue, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'envisager ces progressions technologiques. Et on a parlé du risque ou de l'espoir, ça dépend que des sociétés américaines investissent dans ce domaine. On a particulièrement parlé de Google via Google Calico. Et c'est certain qu'un des enjeux, c'est de savoir si ici, en France, en Belgique, en Europe, il y aura des investissements publics qui seront faits pour la longévité. Parce que la conscience que nous pourrons un jour mettre fin aux maladies liées au vieillissement, cette conscience-là, elle progresse, mais elle progresse plus aux États-Unis, en Asie, qu'ici.
Est-ce qu'il y a deux façons de voir le transhumanisme, Didier Kermel, une façon, disons, européenne, pour qui le transhumanisme doit se faire avant tout au bénéfice de la société, c'est-à-dire ce progrès hein, pour l'individu, cette amélioration, et une façon, disons, plus américaine qui ne penserait qu'à l'individu?
Disons qu'il y a... chez les Américains, plus les investissements qui sont des investissements privés et en Europe, plus des investissements publics, donc plus des investissements collectifs. Et cela signifie notamment que si des thérapies sont accessibles grâce à des investissements ici en Europe, ça pourrait être accessible tout de suite pour l'ensemble des citoyens et même en commençant par ceux qui sont les plus fragiles, c'est-à-dire les plus âgés, c'est-à-dire les moins riches. J'entendais tout à l'heure Monsieur Beignet dire qu'il préférait mourir qu'avoir un capteur. J'insiste sur le fait que tout le monde dans ce monde futur envisageable aura le choix, tandis qu'aujourd'hui nous n'avons évidemment pas le choix de mourir ou de ne pas mourir. Nous en sommes obligés. Donc ceux qui considèrent qu'un capteur c'est plus grave que de mourir, je pense qu'il y a une dimension de peur de la vie en fait. On a peur d'une vie trop longue parce que jusqu'ici on n'a pas le choix. Mais donc pour ceux qui ne le souhaitent pas, ça n'est pas une obligation. C'est la possibilité d'une vie beaucoup plus longue pour tous ceux qui le souhaitent, en commençant par les plus fragiles et en sachant qu'aujourd'hui, il va y avoir dans le monde entre 150 et 170 000 personnes qui vont mourir, 70% des gens qui vont mourir et 90% des gens qui vont mourir dans un pays comme la France meurent de maladies liées au vieillissement. Toutes les autres causes de décès ont été laminées dans l'histoire récente de l'humanité. C'est le dernier obstacle, et le droit à la vie, c'est notre droit le plus précieux.
Mais ça veut dire, Didier Kermel, qu'il faut... Ça veut dire aussi, parce que vivre très longtemps, c'est bien pour l'individu, mais ça veut dire aussi qu'il faut un environnement sain, une société durable.
Bien sûr.
Pardon, mais pour l'instant, il ne me semble pas qu'on en prenne le chemin.
Bien sûr. Si vous savez que vous allez vivre beaucoup plus longtemps... Même dans un point de vue, on va dire, purement égoïste, vous avez besoin d'un monde qui est un monde durable. Le meilleur moyen d'avoir un environnement durable, c'est d'avoir aussi un corps durable. Si il existe demain, ce ne sera pas comme ça malheureusement, mais imaginons que demain on trouve une pilule qui permette une vie sans limitation de durée, vous serez obligé de prendre des mesures qui voient l'horizon à beaucoup plus long terme et donc prendre des mesures pour avoir cet environnement durable. Par ailleurs, une société dans laquelle les femmes et les hommes vivent beaucoup plus longtemps, c'est une société qui devient plus pacifique. Si demain...
Ça, c'est une hypothèse.
Si demain... Non, ce n'est pas une hypothèse. Les sociétés qui sont les sociétés, je veux dire, les sociétés dans lesquelles les femmes et les hommes vivent le plus longtemps sont les sociétés dans lesquelles il y a le moins de violence. C'est également les sociétés dans lesquelles il y a le plus d'avancées technologiques. Évidemment, c'est dans les deux sens. Et si demain la mort devient quelque chose d'absolument exceptionnel, extrêmement rare, cela rendra la vie extrêmement précieuse. Cela voudra dire que aujourd'hui, quand vous tuez quelqu'un, vous ne faites qu'accélérer le décès, un décès qui est inévitable. Demain, ça deviendra peut-être un crime qui ne sera pas seulement inacceptable, mais même totalement impensable.
Restez en ligne, Didier Cornel, parce que je voudrais l'avis de notre philosophe Jean-Michel Beignet sur cette société quasi idéale que vous nous promettez grâce au transhumanisme.
Quel ennui que cette société, vous vous rendez compte, mais c'est effrayant. Où est l'intensité dans cette vie? Où est le hasard? Où est l'aventure? Où est la fantaisie? Où est l'originalité? Non, on est dans le plus. Ce qui me sidère, c'est que les positions transhumanistes sont incapables de distinguer entre la survie et l'humain. Pour ces mouvements-là, nous sommes des vivants, et des vivants qu'il faut continuellement réparer, qu'il faut rebooster, qu'il faut éventuellement augmenter. Mais nous ne sommes pas des humains. Les humains, ils ont en plus des vivants une dimension symbolique, une dimension culturelle, une dimension spirituelle, dont le transhumanisme se moque, mais éperdument. Vous disiez en commençant l'émission, en énumérant finalement les gages, les promesses que nous prodigue le transhumanisme, qu'ils pourraient songer aussi à augmenter la réflexion. Mais la réflexion, ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est la réactivité. L'homme augmenté n'est pas un homme qui... L'humain augmenté n'est pas un humain qui aura des vertus réflexives et spéculatives augmentées. Il aura une puissance de réactivité accrue qui lui permettra d'interagir avec des automatismes et toujours plus d'automatismes.
Didier Cornel de l'Association française de transhumanisme.
Oui, alors d'abord je conseille à M. Béné la lecture du livre Technoproc que nous venons de rédiger M. Roux et moi, et je veux dire le plus donc, je veux dire le signe symbole du transhumanisme c'est le plus d'humanisme, donc ça veut dire évidemment plus de culture, plus de diversité, mais aussi plus de compassion, et il va de soi que lorsque vous ouvrez des possibilités en plus, ça ne signifie pas de supprimer des choses, ça signifie plus de liberté, ça signifie plus de capacité, donc il n'est pas question d'empêcher les gens, par exemple, il n'est pas question d'empêcher les gens, s'ils souhaitent ne pas avoir accès à certaines technologies, de ne pas les utiliser, il n'est pas question non plus. Mais encore une fois, aujourd'hui, nous n'avons pas de choix. Aujourd'hui, nous mourrons au bout d'un espace de temps qui est de maximum 120 ans. Et à ce moment-là, tout s'écroule. Toute la diversité, tout ce qui nous fait être humain. La phrase, le proverbe africain, lorsque un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est évidemment correct, et cela signifie toute cette diversité disparaît. Mais je voudrais quand même dire rapidement une chose importante qui n'a pas été beaucoup abordée encore ici, c'est les risques. Donc les transhumanistes sont conscients aussi que les progrès technologiques ne comportent pas que des aspects positifs. Il y a des risques tout à fait considérables, ce qui s'appelle les risques existentiels. On a cité celui de l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres risques tout à fait considérables. Et l'Association française Technoproc insiste toujours sur le fait que dans les investissements scientifiques, il doit y avoir une part importante pour toutes les études de risque par rapport aux technologies, par rapport aux armes. Et je prends encore 15 secondes pour dire, ce n'est pas par hasard que c'est un des fondateurs du transhumanisme, Nick Bostrom, qui a été la personne qui est le spécialiste mondial maintenant de l'étude des risques qui sont liés à l'intelligence artificielle.
Prévention des risques. Eh bien, merci Didier Kernel d'avoir été au téléphone avec nous, un vice-président pardon, de l'association Technoprog, qui est aussi l'association française de transhumanisme. Merci, merci à vous. Béatrice Jousset-Couturier, peut-être un point de vue de la docteure en pharmacie que vous êtes et spécialiste aussi de bioéthique sur cette société dépeinte à l'instant par Didier Kernel.
Bah écoutez, moi j'ai simplement envie de vous dire, si tout devient possible, est-ce que tout est souhaitable? Je crois que c'est la grande question qu'il faut se poser, parce qu'effectivement vous avez fait remarquer que le transhumanisme avait maintenant infiltré toutes les couches de la société, que ça soit les politiques, les économiques, que ce soit les scientifiques et autres, et je crois qu'il est grand temps de savoir dans quelle société les hommes veulent vivre.
La question se pose.
Donc la question est posée et il est grand temps que tout le monde s'y intéresse. Alors je souligne simplement que je crois que aux États-Unis, monsieur Obama a commencé à prendre les choses en main et qu'il a créé une sous-commission pour l'étude justement des problèmes éthiques posés par l'intelligence artificielle, avec une série de 3 ou 4 sous-débats publics. Donc offerts aux Américains.
Aux États-Unis d'ailleurs, où un candidat, alors il n'a pas poursuivi sa course à la Maison-Blanche, mais il y a un an, un candidat s'était déclaré, qui s'appelle Zoltan Itzvan, ouais, et qu'entendait créer le parti transhumaniste mondial, et dont le but ne serait pas de baisser ou augmenter les impôts, mais au contraire d'être le premier parti démocratique, gouvernant mondial et transhumaniste, David Angevin.
Oui, alors bon, là c'est un petit rigolo, mais par contre, comme vous disiez à l'instant, Barack Obama lui-même est entouré des plus grands spécialistes des NBIC. Il y a Eric Lander du MIT qui travaille avec lui. Il est très proche de Larry Schmitt, de Google, de George W. Church, etc. En France, on n'a pas du tout ça. Hein. Nos présidents sont entourés d'énarques. Ils sont absolument pas entourés de ce type de spécialistes. Donc, je crois que le seul scientifique autour de François Hollande, c'était Aquilino Morel. Mais ça s'est mal terminé. Donc, non, c'est très important. Ils ont vraiment conscience que la domination du futur passe par la maîtrise de cette technologie. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que Google n'a pas été démantelé. C'est parce que c'est vraiment le bras armé. C'est pas simplement une question économique. C'est une domination culturelle qui est bien plus importante de penser. C'est une hégémonie intellectuelle. C'est du soft power, comme on dit en diplomatie. Et nous sommes totalement absents. Mais c'est dommage, parce que si on est absent, ces NBIC vont se faire sans nous. Et nous n'aurons pas notre mot à dire. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas apporter notre regard de philosophe. Les Lumières, les Américains s'en tamponnent. Les Chinois, la même chose. Donc, on n'a jamais renoncé dans toute l'histoire à une technologie et qu'on ne renoncera pas au NBIC. La question, c'est comment on le fait? Quels garde-fous on met? Si on veut mettre des garde-fous, il faut qu'on soit acteur de ces technologies.
Et ce qu'on constate aussi, c'est que les Américains font beaucoup plus. Il y a la Singularity University que vous avez évoquée, mais il y a aussi Stanford, le MIT, vous l'avez dit, il y a la NASA, vous l'avez dit, ARPANET, Google, on l'a dit au tout début de cette émission. En Europe, en France, on attend peut-être l'ouverture de votre université
du futur
en Aquitaine. En Europe, il y a le Human Brain Project, qui est sur le territoire européen, mais c'est à peu près tout.
Il y a le Oxford Institute de Nick Bostrom dont on parlait à l'instant.
Il y a le Minatech à Grenoble, qui n'est pas si mal que ça.
Oui, enfin, mais bien loin de ce qui se passe aux États-Unis, et des investissements faits par les États-Unis.
Bien sûr.
Oui, Jean-Michel Beignet. Assurément, on ne joue pas dans la même cour, si vous voulez, mais enfin, il arrive que l'Europe fasse les mêmes bêtises que les Américains, en donnant beaucoup d'argent pour réaliser un cerveau artificiel, qui est une gabegie maintenant de plus en plus reconnue, y compris aux États-Unis. Ne nous laissons pas impressionner par la force de frappe financière des Américains ou par l'absence d'état d'âme des Chinois. C'est ça qu'il faut affronter, peut-être plus que la compétition sur leur propre terrain.
il faut s'interroger si les raisons pour lesquelles la France paraît plus timorée, ces raisons-là sont peut-être aussi d'ordre culturel. Peut-être qu'après tout, nous avons un background culturel plus chargé, plus dense, qui fait que nous avons une vision du monde plus, à la fois plus raisonnable, plus harmonieuse et plus encourageante.
N'est-ce pas Sartre, puisque vous parlez de background culturel, qui disait que seule la mort transforme la vie en projet ?
En destin, oui. Ben oui, et c'est une idée profonde. Ce que dit Sartre, c'est ce que disaient aussi des biologistes comme Jacob. Hein. La vie, elle est déliée de toute finalité. La vie, elle est sans pourquoi. Elle est le produit du hasard, et tant qu'elle se déroule, elle est livrée au hasard. Vouloir technologiser la vie, c'est vouloir précisément supprimer ce hasard. Or, ce que dit Sartre, c'est qu'effectivement, c'est seulement quand on meurt qu'on peut rétroactivement retracer l'itinéraire d'une existence humaine et la transformer en destin. On en parle à ce moment-là, rétrospectivement. Or, qu'on veuille supprimer la mort, c'est tout simplement, de ce point de vue-là, supprimer la vie. Et je tiens que les transhumanistes n'aiment pas la vie, détestent même la vie.
Non, mais le truc, je pense que les transhumanistes veulent reprendre, veulent tuer le hasard, effectivement, mais ils considèrent que la nature est mal faite. C'est ça.
Absolument.
Les transhumanistes considèrent, et moi je leur donne raison, que la nature n'est pas toujours bien faite. C'est-à-dire qu'on a maintenant les possibilités techniques de réécrire le génome. On est des dieux. C'est-à-dire qu'on est des dieux, que la nature est mal faite et qu'il faut tout faire pour se débarrasser de ce fardeau-là. Il y a un grand généticien de Duf qui disait la nature ne traite pas mieux le poète que le scorpion. Ça, c'est vraiment la vision transhumaniste.
C'est la seule chose intéressante, à mon avis, du transhumanisme, c'est cette composante-là, métaphysique, qui inscrit le transhumanisme dans une tradition lointaine qu'on appelait la gnose, hein, qui considère qu'effectivement, Dieu a raté son coup dans la création. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout, il était affronté aux forces du mal, et la science va pouvoir nous délivrer du mal et nous permettre...
On peut regarder ça d'un point de vue dépressif et se dire c'est horrible de vivre très vieux. Et bien, il y a aussi plein de gens, je pense, notamment de la nouvelle génération des digital natives qui vivent avec un smartphone implanté dans le cerveau directement, qui vont considérer que vivre 300 ans, c'est fabuleux. Je pense qu'il y aura une forte demande de l'opinion publique.
L'être n'est pas un crime, alors pourquoi serait-il puni de mort?
Mais Béatrice Jousset-Couturier, alors est-ce qu'on va vivre jusqu'à 300 ans? Vous qui êtes docteur en pharmacie.
Ah mais moi je suis pour, en bonne santé.
Oui, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ce sera possible?
Oui, ce sera possible.
Et dans combien de temps?
Point d'interrogation.
Bon, ben voilà,
on dit déjà 120 ans, peut-être en 2045.
Et c'est bientôt, 2045.
Mais
pour nous, c'est trop tard.
Et pour nous, c'est trop tard. Mais merci quand même à tous les trois d'avoir participé à ce débat de midi. Petite bibliographie qui aide à voir plus clair hein, quand même dans cet avenir pour s'emparer de cette question sur le transhumanisme. Jean-Michel Beignet, vous avez signé aux éditions Fayard « Le futur a-t-il encore besoin de nous ?» et un livre qui devrait sortir, je crois, à l'automne prochain, « Les robots font-ils l'amour ? Le transhumanisme en 12 questions ». Béatrice Jousset-Couturier, on en a parlé, « Le transhumanisme, faut-il avoir peur de l'avenir ?» aux éditions Erol et donc David Angevin, ce roman qui est assez vieux maintenant, mais qu'on trouve encore chez Naïve, où Chambord appartient à Google, Adrien, Humain 2.0, et tous ces titres, évidemment, sont à retrouver sur notre site franceinter.fr.